Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Carrier, directrice de la Bibliothèque publique d'information, et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré aux pédagogies de l'éducation, aux médias et à l'information en bibliothèque. En ces temps difficiles, l'accompagnement des publics dans le décryptage des flux d'information est plus que jamais nécessaire. Et avec grand plaisir, nous voyons arriver de plus en plus de bibliothèques de lecture publique qui s'engagent dans cette voie. Depuis 2018, la BPI s'est vue confier par le ministère de la Culture une mission de coordination pour favoriser les partages d'expériences et la réflexion entre professionnels sur les sujets de l'éducation aux médias et à l'information. Nous vous proposons d'ailleurs des ressources et des fiches pratiques sur notre site professionnel qui s'appelle BPI Pro, des actualités que vous pouvez également retrouver sur la page Facebook Pro de la BPI. Nous avons également élaboré l'année dernière, avec le soutien du service du livre et de la lecture et d'un certain nombre de bibliothèques partenaires, un guide pratique sur l'EMI en bibliothèque de lecture publique. Nous souhaitons enfin organiser tous les 2 ans des journées professionnelles sur cette thématique. La première s'est tenue en novembre 2018. Cette année, dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons tous et toutes, ce rendez-vous prend la forme d'un webinaire. Vous êtes plus de 300 à vous être inscrits à ce webinaire aujourd'hui et nous sommes ravis de pouvoir continuer à faire vivre ainsi notre communauté de travail, même si vous n'êtes pas physiquement présent et nous le regrettons. J'espère que ça reviendra assez vite. Au programme de cet après-midi, la question des pédagogies à mobiliser pour développer et animer des projets d'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque est au programme. Les pratiques pédagogiques qui sont mobilisées s'éloignent souvent des méthodes académiques traditionnelles. Elles impliquent en effet que les apprenants soient dans une posture active, réflexive et critique. Mais aussi que les bibliothécaires en charge de ces projets disposent d'une compétence essentielle de transmission de connaissances et de compétences qui devient donc tout à fait nécessaire pour favoriser le débat et le partage de points de vue sur des sujets qui peuvent parfois être très clivants. Je vous souhaite donc de fructueux travaux cet après-midi et je laisse la parole à Nathalie Daigne, chef du service des publics et de la communication, qui va vous présenter les intervenants et le déroulé précis de l'après-midi. Bon après-midi à tous. Nathalie, à vous.
Bonjour à tous, merci Christine. Pour traiter cette question des pédagogies de l'EMI, nous avons organisé l'après-midi en 2 temps. Tout d'abord, 2 interventions de Sylvie Pierre et Olivier Lasvergnas. Vous pourrez ensuite leur poser vos questions. Et ensuite, pour ceux qui y sont inscrits, un atelier de mise en pratique où nous imaginerons ensemble un atelier EMI. Alors, nous allons tout d'abord écouter Sylvie Pierre, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, rattachée au Centre de recherche sur les médiations et référente laïcité de l'INSPE de Lorraine. Sylvie Pierre nous présentera des dispositifs d'animation collaborative et participative pour la conduite de projets d'EMI. Ensuite, Olivier Lasvergnas, astronome, professeur en psychologie et sciences de l'éducation des universités à l'Université de Nanterre, s'interrogera avec nous: la démarche scientifique est-elle un moyen essentiel pour développer l'esprit critique? Tout au long de ces 2 interventions, vous êtes invités à poser vos questions en commentaire sous la vidéo. Il faut pour cela que vous suiviez la rencontre depuis la page Facebook BPI pour les professionnels. Je poserai ces questions pour vous à nos invités à la fin de la séance. Nous tenons beaucoup, même si nous ne sommes pas physiquement présents ensemble, à ce que vous puissiez vraiment avoir ce temps d'échange avec nos intervenants. Et sans plus tarder, Sylvie Pierre, je vous laisse la parole.
Merci. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. La situation n'est pas facile puisque nous sommes en visioconférence, mais tout s'est bien passé et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, merci encore pour tout ce travail d'organisation. Je vais donc répondre à la question : une pédagogie spécifique est-elle nécessaire pour développer, animer des projets en éducation aux médias et à l'information que j'appellerai EMI dans mon intervention pour que cela soit plus court, dans les bibliothèques de lecture publique. Juste en introduction, je forme des professeurs des écoles, des collèges, des lycées à l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, et j'interviens régulièrement dans des bibliothèques où j'anime des conférences, par exemple, sur les fake news ou le transhumanisme. Donc, je suis amenée à travailler avec des bibliothécaires régulièrement. Aujourd'hui, mon intervention apportera un éclairage théorique et pratique sur les pédagogies collaboratives et innovantes, mais aussi sur les techniques d'animation à utiliser dans la conduite des projets dans vos structures professionnelles. Et je vais déjà commencer par le contexte. Si l'EMI n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait quand même plusieurs années que on aborde cette question dans la formation et dans l'éducation, mais la question de la citoyenneté à l'égard des médias et du numérique est un objet de réflexion récent et réactualisé à partir des faits de société que vous connaissez, hein, qui sont par exemple les fake news, qui sont donc des informations falsifiées, qui sont conçues pour ressembler à des informations telles que les journalistes peuvent les produire. Elles peuvent prendre, d'ailleurs, ces fake news, des formes variées, des faux comptes, des détournements d'images ou de vidéos, mais aussi voilà, des usages détournés d'informations qui visent à tromper. Alors, ces fake news, elles sont aussi en lien étroit avec une autre notion qui a connu une éclosion spectaculaire en 2016, puisque c'est, le terme de post-vérité a été le mot de l'année du dictionnaire d'Oxford. Et cette notion de post-vérité, c'est un adjectif qui se rapporte ou qui indique des circonstances dans lesquelles des faits objectifs influencent moins l'opinion publique que l'appel à l'émotion et à la croyance personnelle. À cela aussi s'ajoute la théorie du complot. Donc, tout cela crée un contexte qui peut paraître quand même inquiétant, en tout cas qui interroge. Et puis enfin, la présentatrice a effectivement souligné que je suis référente laïcité, je travaille beaucoup sur cette question, et en fait, l'analyse des discours et de la rhétorique d'acteurs qui attaquent les valeurs de la République française, et notamment de la laïcité, sont une préoccupation. Car cette rhétorique est basée sur la haine et fait appel, par exemple, au grand remplacement, au concept de panique morale que l'on retrouve dans les médias et sur certains sites Internet. Donc, les fake news et tous ces éléments prospèrent dans un contexte de crise de confiance généralisée vis-à-vis des sachants, ceux qui portent une parole de vérité. On voit bien qu'il y a une attaque par rapport aux enseignants, aux politiques, aux journalistes qui vérifient l'information. Et cela crée un climat de doute généralisé, alors que le débat démocratique est normalement régi par des règles de la conversation qui fondent la civilité et le vivre ensemble. Il faut aussi souligner que tout individu, tout citoyen peut être amené à diffuser ses fake news et être à son insu producteur de fake news parce que il relike des informations et des messages et participe à la diffusion de ces informations. Alors, vous l'avez bien compris, transmettre des savoirs dans ce contexte est insuffisant, car dénoncer un danger, ça ne suffit pas à ce que des citoyens adoptent des comportements éclairés et des comportements basés sur l'esprit critique et la raison plutôt que sur l'émotion et le mensonge. L'approche éducative, elle est donc complémentaire de l'approche centrée sur les savoirs parce que elle se rattache à des valeurs, hein, vous avez bien compris, des valeurs de citoyenneté, des valeurs républicaines que sont la laïcité, la liberté de conscience, et puis des objectifs plus étendus qui sont ceux de l'idéal démocratique. John Dewey, qui en 1916 s'est peut-être déjà ancien, mais c'est quand même une référence en matière de réflexion sur l'idéal démocratique et la pédagogie active, écrivait « Une société hautement démocratique est essentiellement un mode de vie associatif et d'expérience commune partagée par l'ensemble des êtres humains. » Et c'est cet enjeu démocratique que doit prendre en charge et investir l'EMI. Les enjeux sociétaux qui s'attachent à cette éducation et à la nature des savoirs invitent donc à s'attacher à la place de la personne. Alors, quand je dis la personne, ça peut être un enfant, si c'est dans le cadre scolaire, ou vous pouvez accueillir des enfants dans des partenariats avec les écoles. Ça peut être aussi des adultes, parce que vous accueillez des adultes, des publics variés. On sait bien que vous faites de la médiation culturelle et que c'est la richesse d'accueillir des publics très variés, hein, qui peuvent être de tous âges, de toute origine culturelle et de la société. Et donc, cela nécessite d'interroger, alors on parle de didactique curriculaire, hein, c'est-à-dire de contenu, et puis aussi des techniques d'animation pour amener la personne à adopter une posture réflexive et critique. Donc, outre l'enjeu de lui permettre à cette personne de prendre place et de se... outre l'enjeu de permettre à l'EMI, de prendre place puis de se généraliser dans les bibliothèques, qui sont des lieux de médiation culturelle, il est nécessaire donc de penser les dispositifs d'intervention auprès des publics afin de prendre en compte leur représentation des médias et du monde numérique et de leurs usages. Alors, je vais citer Edgar Morin qui, dans les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, évoque la nécessité de prendre conscience de la complexité et du caractère complexe du savoir. Et nous sommes bien dans cette approche pour l'EMI. La personne doit ici affronter les risques, les deux risques permanents d'erreur et d'illusion dans le monde médiatisé, parce que je l'ai dit, hein, il y a vraiment volontairement d'ailleurs, hein, une volonté d'illusion et de tromper et d'induire en erreur le public dans le monde médiatisé et connecté qui est désormais le nôtre. Alors, pas bien sûr tous les médias, hein, mais en tout cas, pour ce qui concerne les fake news, la théorie du complot. Donc, il s'agit d'armer chacun, chacune, dans le combat pour la lucidité et avoir un regard lucide et éclairé par rapport aux médias, et puis aussi favoriser l'intelligence collective qui est nécessaire pour vivre ensemble. Si cet objet s'appuie sur un réseau de notions issues de différents domaines disciplinaires, il n'en reste pas moins qu'il est complexe à appréhender, car il vise à la responsabilité de l'individu. L'EMI a pour finalité la compréhension mutuelle, la tolérance, le respect de l'autre, le respect d'autrui, et puis aussi la gestion de ses émotions, le fait de ne pas être... véhiculer soi-même des fake news, développer l'esprit critique. Donc la mission fondamentale pour vous, pour tout acteur d'ailleurs en formation EMI, c'est de permettre aux personnes de débattre, de confronter leur vision du monde aux autres personnes en vue d'un développement de l'altérité, en vue de la tolérance aussi, puis de l'écoute des autres. Ce qui implique une attention particulière à la notion de représentation, les représentations que les publics que vous accueillez peuvent avoir de cela, hein, et puis aussi des préjugés, des conceptions du monde que chacun, chacune peut avoir, hein, en tenant compte, bien sûr, de la complexité des interactions et puis du nécessaire développement de compétences psychosociales. Alors, ce qu'on appelle par compétences psychosociales, c'est par exemple la coopération par le travail de groupe ou la communication, savoir argumenter, exprimer un point de vue, par exemple, hein. Alors, nous venons de définir les enjeux en termes politiques. Vous l'avez bien compris, ils sont très forts, les enjeux en termes politiques. Mais il convient maintenant d'en proposer une formule opératoire, parce que vous êtes certainement en attente d'outils, hein, c'est-à-dire de dispositifs d'intervention pour appréhender ces questions. Car, comme je l'ai dit, hein, ça ne suffit pas de transmettre des savoirs et de donner des guides, etc. Donc l'EMI se comprend comme une action éducative spécifique, différente des situations coutumières. Alors j'entends des situations coutumières qui sont par exemple de transmettre un contenu basé sur des savoirs ou des gestes prescrits, hein, que vous pouvez peut-être faire dans les bibliothèques quand vous expliquez une procédure, etc. Là, nous sommes dans un autre registre. Alors, cela nécessite que la personne identifie les obstacles liés au monde numérique. C'est-à-dire qu'il faut l'aider à repérer les préjugés qui peuvent envenimer les relations sociales, qui peuvent, les impulsions aussi que l'on peut avoir par rapport à l'information, hein, mais aussi le cyberharcèlement, les fake news, etc. Donc, cela implique que la personne se connaisse, reconnaissent ses émotions par rapport à, par exemple, des images ou des messages, interrogent sa représentation du monde et celle des autres, que les autres peuvent avoir, identifient aussi les obstacles qui nuisent à la compréhension mutuelle et puis qui nuisent à la raison, à qu'est-ce qui fait que je suis plus attirée par l'émotion et par une information détourné que par la raison et le raisonnement scientifique. Donc tout cela nécessite d'identifier l'influence de son milieu, d'identifier la notion de passion par exemple, ou d'égoïsme, etc. Apprendre, alors maintenant un petit mot sur les théories de l'apprentissage. Je ne peux pas développer, mais je vais vous donner quelques éléments qui me paraissent être importants lorsque l'on appréhende des activités autour de l'EMI. Apprendre, c'est un processus personnel dynamique dont l'acteur, le public, la personne est l'apprenant. Il n'y a pas, ça, il y a beaucoup de théories sur cela, hein, il n'y a pas d'apprentissage sans processus, sans activité de l'apprenant. Et pour s'investir, l'individu doit trouver de la motivation, du sens, voire du plaisir dans l'activité. Hein, donc, c'est à vous aussi à créer des situations qui vont s'appuyer sur cela. Les dispositifs d'intervention s'inscrivent dans le modèle que l'on appelle modèle constructiviste, hein, qui et part du principe que les connaissances se construisent par ceux qui apprennent à travers des activités qui peuvent être des activités de résolution de problèmes ou des activités de confrontation de points de vue. Et les théories du conflit socio-cognitif reprennent cette idée. Vous allez voir que les dispositifs, les techniques d'intervention, elles se basent sur ces théories du conflit socio-cognitif. C'est-à-dire que l'individu, il entre en conflit quand il dispose d'une information incompatible avec ses connaissances préalables. Il va prendre conscience d'une lacune ou il va prendre conscience que quelqu'un d'autre pense différemment de lui. Et cette confrontation socio-cognitive, elle permet de faire évoluer la représentation et la connaissance. Donc, le modèle socio-constructiviste, il introduit aussi une dimension supplémentaire, c'est-à-dire il est basé sur l'importance des échanges sociaux qui dans la genèse des savoirs, hein, c'est-à-dire qu'on apprend à partir de la confrontation avec les autres, à partir des interactions sociales, des échanges, du travail de verbalisation, de construction de la connaissance. Donc, dans ce cadre, les pairs, c'est-à-dire les publics, si vous travaillez sur des travaux de groupe avec d'autres personnes, ce seront les pairs. Hein. Les pairs, donc, ont une importance dans la démarche, car le conflit amène les apprenants à résoudre un problème qui se pose. Donc, il s'agit d'agir sur le contexte de la personne, vous l'avez bien compris, hein, donc, et d'agir sur les déterminants de la motivation, c'est-à-dire la manière dont la personne va percevoir l'activité qui lui est proposée. Inutile de dire que le discours dans ce cadre doit être positif, il doit s'inscrire dans une posture de confiance où la parole est libre, où les personnes se sentent libres dans leur expression, bienveillante aussi de la part de votre part si vous animez ces activités. Alors, par sujet acteur, il faut aussi considérer aussi bien l'intervenant, donc vous, que la personne, car chacun d'eux mobilise sur la question de l'EMI des systèmes de représentation, connaissances, c'est-à-dire que lorsque l'on intervient, que ce soit en tant qu'intervenant ou en tant qu'usager, chacun mobilise des croyances, des opinions, des connaissances médiatiques, des savoirs ou des attitudes. Hein, nous ne sommes pas des êtres désincarnés, nous avons tous une représentation du monde. Et dans les situations débat, il s'agit de permettre aux personnes d'identifier ce qui relève justement des croyances, de la pensée commune, de la connaissance étayée du raisonnement scientifique et de ce qui peut avoir une influence sur l'usage des médias. Donc, il faut par conséquent apprendre au public à faire preuve d'une éthique de la discussion, hein, de pouvoir échanger, de confronter ses idées et puis d'aider à se rapprocher par-delà les différences, à discuter de façon argumentée, respectueuse et toujours, bien sûr, cultiver l'esprit critique. Alors, je vais vous présenter quelques techniques. Je ne peux pas développer, j'ai donné des documents que vous pourrez retrouver où vous aurez le détail de ces techniques. Mais pour ma part, j'utilise beaucoup de techniques dans l'éducation aux médias et à l'information. Et ce sont des techniques issues de pédagogie active et qui peuvent être utilisées pour plusieurs objectifs. Hein, par exemple, si je veux que chaque personne s'exprime individuellement de manière nuancée, je peux utiliser la bague de Régnier. La bague de Régnier, c'est une technique où vous énoncez des affirmations. Par exemple, il est facile de créer un faux compte sur Facebook. Et les participants ont des petits cartons de couleur et se positionnent. Oui, non, non, mais, oui, mais, je ne sais pas. Et chacun se positionne. Et ainsi, vous donnerez la parole à chaque personne pour qu'elle puisse donner son avis. Cela permet de confronter les opinions et ensuite de pouvoir débriefer et puis arriver à la connaissance et pouvoir donner les éléments de connaissance. On peut aussi favoriser l'argumentation en formulant des idées et des représentations en fonction de critères proposés par le formateur. Là, par exemple, ça sera un blason. Donc, vous faites un blason coupé en quatre parties et vous leur demandez de répondre, par exemple, l'information, c'est vrai. Une autre partie, l'information, c'est faux. Et chacun devra argumenter à partir d'un blason en groupe, hein, ça se fera en groupe. Ça peut être aussi faire vivre une situation aux participants par le biais de jeux de rôle. Je l'ai fait avec des étudiants en faisant une immersion dans la peau numérique de militants. Et donc là, c'était partir de trois défis qui ont guidé notre réflexion, c'est-à-dire que les étudiants devaient finalement transformer une pratique quotidienne intégrée comme Facebook hein, en un questionnement. Donc, ils devaient se mettre dans la peau d'un militant et créer un message intelligible, mais en même temps faux, hein, c'était un faux message, et puis réfléchir sur la diffusion du message, comment fonctionne l'algorithme. Et donc, ils ont été vraiment étonnés de la rapidité de diffusion d'un faux message et du fonctionnement des algorithmes. Donc, par une situation que vous faites vivre aux participants, ils vont prendre conscience d'une réalité. On peut aussi obtenir une diversité d'opinions et d'hypothèses convergentes ou divergentes sur un thème. Et là, vous avez la technique du Philippe 6x6. Donc, vous leur donnez 6 minutes sur une question. Vous leur posez une question. Hein, et puis, pendant 6 minutes, 6 personnes vont débattre et vont essayer de produire quelque chose à partir de leur leur opinion, qui peuvent être soit convergentes, soit divergentes. Par exemple, il faut interdire Internet aux enfants. Donc, vous avez des mères de famille, par exemple, elles doivent, pendant 6 minutes, débattre, et ensuite, un rapporteur ou une rapporteuse expliquera quel est le point de vue du groupe. Donc après, ça permet de partir des représentations des usagers pour ensuite voilà, arriver à ce qui de débattre et arriver à des consensus. On peut enfin utiliser la technique du photoformation qui permet de faire émerger des représentations et des idées à travers la lecture d'images. Vous devez connaître le photoformation. Donc c'est intéressant comme outil parce que chaque participant va choisir une photo qui le touche et cela permet de faciliter l'expression et la communication. Cela permet de mettre à jour des présupposés, hein, des attentes, des représentations des personnes. Ça permet aussi de mettre à distance ses propres conceptions parce que la photo sert d'outil de médiation, hein, et ça permet aussi d'aborder la complexité d'un sujet. Voilà, donc je vais conclure parce que je sais que j'ai jusqu'à 14h30, donc il faut être rigoureux avec les outils numériques. Je vais juste conclure juste pour vous dire que l'utilisation de telles démarches nécessite de la part des formateurs, des bibliothécaires pour vous, hein, des compétences précises. Il faut savoir être garant d'un cadre éthique. C'est important de le poser au départ, hein. Les usagers peuvent s'exprimer, il n'y a pas de jugement, la parole des uns vaut la parole des autres dans les discussions et les échanges. Vous êtes dans une posture d'accompagnement dans des personnes dans leur réflexion, hein, et pas dans la transmission de savoir. Et bien sûr, cela, je l'ai déjà dit, mais ça nécessite de l'écoute, de la bienveillance, voire de l'empathie. Hein, ça nécessite de savoir mener des débats argumentés. Une chose aussi, ça nécessite une posture de neutralité, c'est-à-dire que la neutralité du fonctionnaire, mais vous êtes bibliothécaire, mais c'est-à-dire ne pas faire état de ses propres opinions, soit politique, soit religieuse ou autre. Donc, pour finir, je dirais qu'en conclusion, l'EMI revêt 3 dimensions importantes. La première dimension, elle s'appuie sur les connaissances. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de connaissances. Bien sûr, il faut que les usagers connaissent les médias, et des connaissances sur le fonctionnement du web, les algorithmes, les aspects législatifs, la réglementation, hein, par exemple sur l'usage des données, les dangers aussi, les personnes ressources vers lesquelles ils peuvent aller. Donc ça va plutôt être un pôle centré sur l'apprentissage des connaissances. Un deuxième pôle, ça sera développer des compétences personnelles, civiques, sociales, c'est ce que j'ai développé. C'est-à-dire, là, on va plus travailler sur l'estime de soi aussi, la communication efficace, avoir de l'empathie, être capable d'argumenter et de prendre position. On va être ici dans former des personnes capables de penser par elles-mêmes, hein, c'est-à-dire capables de résister à toute forme de pression et d'emprise que peuvent être certains médias. Et enfin, acquérir les moyens d'un regard critique vis-à-vis de son environnement, c'est-à-dire ici, c'est un pôle plutôt centré sur les capacités, hein, savoir aussi être critique par rapport à l'environnement social, l'environnement que chacun ça peut être dans la famille, ça peut être dans la société, dans ses groupes de pairs, dans sa communauté. Donc l'objectif général, il doit être de mettre en place un environnement ouvert, facilitateur, pour les apprentissages, un écosystème culturel, matériel et pédagogique, centré sur la question. Que faire pour que nos publics, vos publics que vous accueillez, puissent mieux utiliser les moyens d'information et de communication plutôt que qu'est-ce que je pourrais leur transmettre en tant que documentaliste, qu'est-ce que je pourrais leur transmettre. Et je finirai par la phrase de Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Sylvie. Avant de laisser la parole à Olivier Lasvernia, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en commentaire. Il faut pour cela que vous soyez connecté sur la page Facebook Pro de la BPI, BPI pour les professionnels. Je vous rappelle également que cette vidéo sera disponible en replay quelques minutes après le direct. Olivier Lasvernia, je vous laisse la parole. Merci.
Merci à vous. Donc, je vais également commencer par des remerciements. Remerciements à toute l'équipe de la BPI pour l'organisation de cet après-midi et pour dire que c'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour un sujet aussi intéressant et de travailler ensemble à essayer d'élaborer et de voire de confirmer des pistes d'action sur cette question de l'éducation aux moyens d'information. Alors, moi, j'ai une mission un peu particulière parce qu'on m'a chargé d'une question qui est « La démarche scientifique est-elle un moyen essentiel pour développer l'esprit critique ?» Je vais essayer de répondre à cette question-là, ou plutôt partager avec vous un certain nombre d'éléments de réflexion sur cette question. Et je vais le faire en profitant de mes deux casquettes qui ont été citées tout à l'heure. Je suis astronome et surtout je suis président de l'Association française d'astronomie, qui est une association d'éducation populaire. Donc, qui développe des pratiques, en particulier en lien avec les bibliothèques notamment, mais bien entendu en s'appuyant aussi sur les 400 ou 500 clubs d'astronomie actifs qui existent en France, et puis qui produit en particulier la revue Ciel et Espace, les Nuits des Étoiles avec cet ensemble de réseaux. Et puis, je vais intervenir aussi avec, en background, mon métier principal, qui est d'être professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Mais pour tout vous avouer, mes interventions de cet après-midi seront plutôt liées à mon retour d'expérience en tant que donc, président animateur d'une association d'éducation populaire aux sciences et par les sciences, qu'en tant que professeur en sciences de l'éducation. Précaution oratoire pour commencer. Alors, la question qui est posée, la démarche scientifique est-elle un moyen essentiel pour développer l'esprit critique? C'est une question qui va évidemment bien au-delà de l'EMI. Hein, et je vais essayer de la traiter, disons, d'y réfléchir avec vous d'une manière plus générale, effectivement, en voyant quels sont nos moyens pour permettre intervenir pour permettre de développer les compétences et les capacités dont Sylvie Pierre parlait à l'instant. Alors, la première chose, on peut peut-être partager mon écran, voilà. La première chose, c'est que oui, bien sûr, la question, la démarche scientifique permet-elle de développer l'esprit critique? Il n'y a pas besoin, effectivement, d'aller très très loin pour se rendre compte que la participation à des expériences, le développement de projets autour des phénomènes qu'on observe est un moyen de développer l'esprit critique. Alors j'ai pris au hasard une page Facebook, vous voyez qu'elle est complètement amateur, il y a même une belle faute d'orthographe à cratère lunaire. Voilà un groupe qui s'est créé spontanément sur Facebook et qui s'intéresse à la photographie de la Lune et des cratères lunaires. Et on se rend compte que les personnes qui sont là-dedans développent toute une technicité, mais s'intéressent aussi beaucoup à creuser des questions, des investigations, etc. On a rappelé tout à l'heure qu'effectivement, les pédagogies actives, ce qu'on a appelé l'école nouvelle, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les pédagogies actives, les méthodes d'enquête définies par John Dewey, sont des méthodes qui permettent effectivement de développer toute une série d'investigations et de trouver par soi-même un certain nombre de résultats, de s'intéresser à leur validité, etc. Donc concrètement, bien entendu, la première tendance, première tentation, c'est de répondre à la question « La démarche scientifique développe-t-elle l'esprit critique ?» Ben oui, bien sûr, parce qu'en faisant ce type de projet, en participant à ce type de groupe, eh bien, évidemment, on mobilise toute une série de réflexivité, de métacognition. Comme on l'a très bien cité tout à l'heure, dans une approche un peu socio-constructiviste, on, on se trouve face à des conflits cognitifs, on essaie de les résoudre, etc. Et évidemment, ça apprend plein de choses. Cette image-là, qui est une image que tout le monde peut faire lors d'une éclipse de lune, montre évidemment que la Terre n'est pas plate. Alors, on montre là que la Terre est ronde, hein, puisqu'on voit que l'ombre portée de la Terre sur la Lune est ronde. Et si on regarde une éclipse pendant une heure et demie ou deux heures, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas seulement un disque rond, mais c'est bien une boule qu'on observe. Donc, on peut tout à fait par soi-même vérifier toute une série de choses. On peut fabriquer, évidemment, en plâtre ou en autre chose, des maquettes de la Lune, reconstituer les cratères lunaires, s'intéresser à savoir exactement où se sont posées, par exemple, les sondes Apollo, et reconstituer les images qu'on doit voir, et ainsi se rendre compte qu'on peut tout à fait critiquer comme ça les personnes qui disent qu'on ne se serait jamais allé sur la Lune. Alors donc, la première réponse à la question, elle est très simple, c'est oui, bien sûr, l'esprit critique peut être développé par la méthode scientifique. Et donc, on peut imaginer toute une série d'ateliers de ce type-là. On en développe beaucoup en lien avec des bibliothèques, par exemple. La deuxième chose à se dire, c'est que c'est d'autant plus intéressant de développer des démarches scientifiques qu'on travaille en réseau. On a parlé tout à l'heure de la dimension sociale du socio-constructivisme. Et donc, le fait de faire soi-même ces petites photos de la Lune permet peut-être de s'intéresser au système solaire, mais c'est encore plus intéressant de le faire dans un réseau social en lien avec toute une série d'acteurs. Et deuxième chose très importante, c'est aussi évidemment formateur dans la mesure où l'on ne va pas s'intéresser qu'à la méthode d'investigation expérimentale. Dans la question, la méthode scientifique, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre. Évidemment, c'est intéressant de travailler sur des projets de ce type-là, de s'amuser à reconstituer une maquette de la Lune en plâtre, par exemple, en utilisant toutes les sources d'infos. Parce que si on se limite aux quelques photos qu'on va faire soi-même, on n'aura pas forcément une superbe maquette de la Lune. En revanche, si on va chercher des images, si on apprend à les décoder, et donc si on utilise aussi d'autres méthodes d'investigation, l'utilisation de sources secondaires, la recherche d'images, la recherche des traces et des sources des images, pour avoir des projets beaucoup plus intéressants. Et donc, il existe toute une série de dispositifs dans lesquels beaucoup de jeunes et d'adultes sont impliqués. Là, je vous ai mis une série d'investigations qui sont conduites par nos amis du Muséum national d'histoire naturelle, qui sont les projets qui sont autour de la faune et de la flore. Là, vous avez aussi un grand projet international, là c'est 2013, mais ça marche tous les ans, qui est Globat Night, d'essayer de regarder les étoiles, la pollution lumineuse partout dans le monde pour comparer. Et donc, on retrouve de grands projets qui existent comme ça, dans lesquels on peut s'investir, et à ce moment-là, on va effectivement développer son esprit critique, parce que par exemple, dans des projets comme le projet du suivi technique des oiseaux communs, on va découvrir finalement que les espèces d'oiseaux évoluent. Ce projet a permis de constater que les espèces d'oiseaux sont en train de remonter du sud vers le nord. Par exemple, un travail collectif extrêmement formateur. Et voilà, vous avez toute une série d'études de ce type-là qui ont l'intérêt d'être à la fois extrêmement riche et intéressante pour les personnes, pour la motivation, mais aussi réellement de développer l'esprit critique. Très rapidement, voilà une étude, par exemple, où des observateurs se mettent tous en ligne à une dizaine de kilomètres les uns des autres pour observer l'ombre d'un astéroïde qui va passer devant une étoile. Et à partir de ça, on peut reconstituer la taille d'un astéroïde, sa forme. On a même pu détecter le fait qu'un astéroïde avait un petit compagnon. Tout ça par un travail d'investigation collaborative. Et ces démarches d'investigation, elles développent réellement l'esprit critique, mais même plus, elles permettent de comprendre les mécanismes qui permettent de construire de la connaissance. Alors, donc en gros, à ce stade, on peut se dire, effectivement, c'est très clair, le développement de la démarche scientifique permet d'acquérir l'esprit critique. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Et j'en veux pour preuve quelques exemples que je vais vous donner. Donc, le premier, c'est un rappeur américain. Donc là, on est en 2017. Il s'appelle B.O.B. Moi, je ne le connais pas personnellement. Je ne suis pas spécialiste des rappeurs américains. Mais B.O.B. a lancé une souscription de 1 million de dollars. Finalement, elle s'est arrêtée. Il n'avait obtenu qu'une dizaine de milliers de dollars. Là, vous voyez, il en est à 6 000. Il avait lancé une souscription pour lancer une fusée pour démontrer que la Terre était plate. Donc, il faisait une approche expérimentale du fait que la Terre était plate. Et nous avons un autre exemple avec cette autre personne. J'ai malheureusement oublié son nom, je suis désolé, j'essaierai de la retrouver. Donc, lui, c'est une personne qui a décidé de démontrer que la Terre était plate en volant en avion avec un niveau à bulle qu'il photographie pendant tout le vol. Vous voyez, là, il a lancé son chronomètre et il observe que le niveau à bulle est toujours plat, indique toujours que l'avion est plat. Et donc, il en déduit que pendant tout le vol de son avion, qui représente quand même plusieurs milliers de kilomètres, eh bien, la Terre était plate. Et donc, il fait des expériences. Il développe une démarche dite expérimentale pour démontrer qu'il a raison. Et donc, la démarche expérimentale, certes, elle développe l'esprit critique, mais elle ne lui permet pas d'obtenir réellement… elle lui permet à lui d'affirmer quelque chose qui est complètement faux. Et donc, ça montre qu'il ne suffit pas de développer des expériences et développer l'envie de faire des expériences pour vraiment développer l'esprit critique. Et donc, ça nous renvoie, je vais vous prendre un autre exemple également ici. Vous avez, ça c'est une autre expérience qui est développée, que j'ai retrouvée sur Internet et qui est assez fréquente. C'est Dave Murphy, qui est un défenseur des théories de la Terre plate, qui lui propose d'étudier les vols d'avions, et il va démontrer qu'il y a beaucoup moins de vols d'avions dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, entre des villes intercontinentales. Vous n'avez pas de vol direct, par exemple, dit-il, entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Donc, en fait, la Terre n'est pas ronde, parce que sinon, il y aurait des vols directs. Les vols sont obligés de remonter vers le nord, ce qui prouve que la Terre est plate avec le pôle nord au centre. Et il propose à toutes les personnes de s'intéresser à faire ce genre d'expérience. Donc, en fait, effectivement, on peut répondre oui, la démarche expérimentale permet de développer l'esprit critique, la démarche scientifique permet de le faire, mais ça ne suffit pas. Et très clairement, on peut arrêter peut-être le partage d'écran momentanément. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que si on se contente simplement de faire une petite expérience qui serait comme un espèce de TP, si vous voulez, dans laquelle on va aller sur un agrégateur de vols d'avions, puis on va relever les notes, les vols de tous les avions, puis ensuite on va regarder s'ils passent directement en vol direct pour aller du sud au sud ou s'ils remontent tous vers le nord. On fait une petite expérience qui est complètement hors contexte. Dans la réalité, si les vols d'avions passent plutôt par le nord, c'est parce que les grandes plateformes qui permettent les échanges d'avions sont situés alors soit dans le Golfe Persique, dans les Émirats, etc., soit dans d'autres pays du Nord. Et donc, ce sont des raisons socio-économiques qui font que les vols d'avions ne sont pas directs le plus souvent par le Sud. Et donc, en fait, ce que ça montre, c'est que, bien entendu, on peut imaginer de développer l'esprit critique par des petites expériences de ce type-là, mais on ne peut pas faire l'économie de les situer dans un contexte plus général où on va se livrer vraiment à une analyse plus critique et une analyse sur les sources, une analyse sur l'expérience qu'on fait, sur la récupération d'autres données, etc. Et donc, j'en arrive à une deuxième conclusion. Oui, on a tout intérêt à développer des investigations de ce type-là, mais on doit prendre un certain nombre de précautions. Alors, quelles précautions? La première, ça concerne malheureusement la question du rapport aux sciences qui est développé dans le système scolaire. Alors, je repartage mon écran sur cette image-là. Voilà, ça, c'est le système scolaire avec les enfants qui rentrent en haut à l'âge d'à peu près 3 ou 4 ans, et puis ensuite qui sortent environ dans un âge qui varie entre 18 et 24 ans. Et en fait, la situation en France, et dans la plupart des pays, c'est que le système éducatif formel est un système qui est, même si on a changé récemment les filières du bac, est quand même centré sur une sélection par les matières scientifiques. Alors, c'est lié au fait que le bac, ce qui était le bac S et maintenant ce que sont les options sciences dures, sont considérées comme des filières qui ouvrent plus de débouchés et qui sont donc réservées aux meilleurs élèves. Et en fait, quand on regarde le système scolaire en France, on constate que depuis plusieurs décennies, il est calibré en gros pour produire à peu près 25% d'élèves qui auront le bac S ou l'équivalent, et puis 75% de personnes qui quittent les sciences avant le niveau du bac. Parmi ces 75% de personnes qui quittent les sciences avant le niveau du bac, il y a évidemment, malheureusement, ceux qui sont décrocheurs en général, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont continuer des études supérieures, mais qui n'ont pas satisfait aux critères de sélection pour entrer dans les filières scientifiques, et qui se retrouvent malheureusement désintéressés sur les sciences. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui ne font pas de bac S sont des personnes qui ne s'intéressent pas aux sciences, mais une grande majorité des personnes qui ont été sélectionnées, qui n'ont pas été sélectionnées en gros pour le bac S, se considèrent comme malheureusement incompétentes et ont des difficultés avec tout ce qui a trait aux sciences dures. Et là, on a un problème relativement grave, c'est qu'en fait, la conséquence de ça, c'est que la société des adultes en France, elle est relativement catégorisée entre les personnes qui se reconnaissent comme scientifiques et qui se sentent capables, effectivement, de faire des calculs, pour qui le sinus ou le cosinus n'est pas un objet de crainte, mais ces personnes-là sont peu nombreuses, et la très grande majorité, au moins 75% donc des personnes de chaque classe d'âge, et sont plutôt des personnes qui ne se sentent pas compétentes en matière de sciences dures. Et du coup, quand on travaille avec des personnes adultes ou des personnes, disons, d'un âge supérieur à 14-15 ans, eh bien, cette catégorisation entre les scientifiques d'un côté et les non-scientifiques de l'autre crée toute une série d'obstacles par rapport au savoir scientifique, à la démarche scientifique, qui fait que les personnes se sentent souvent très incompétentes. Et donc, quand on fait des activités fondées sur une démarche scientifique, par exemple, quand je prends des clubs scientifiques, des clubs d'astronomie ou des activités comme ça, on se rend compte qu'ils sont très majoritairement fréquentés par les personnes qui ont eu une formation scientifique et qui ont été sélectionnées dans les bacs S ou équivalents. Et ça, c'est un vrai problème dans la société française et aussi dans beaucoup de pays post-industrialisés aujourd'hui. C'est le fait que finalement, le système scolaire crée en gros des obstacles, moi j'appelle ça un obstacle cognitif, un obstacle motivationnel, qui font que la plupart, enfin, ces 75% de personnes se considèrent comme incapables de résoudre un problème scientifique, bien entendu, mais du coup aussi de s'intéresser à un problème scientifique. Et ça amplifie aussi une autre question qui est très ambiguë dans la situation française, c'est le fait quand on parle de scientifiques en général, dans la société française, on ne parle pas des sciences humaines et sociales, on parle des sciences dites dures. Et du coup, il y a une grosse ambiguïté. Par exemple, quand on parle de démarche scientifique, pour quelqu'un qui a fait des études supérieures universitaires, évidemment, démarche scientifique, ça veut dire aussi bien démarche en sciences humaines et sociales que démarche en sciences dures, avec des méthodologies bien entendu différentes, des conceptions de la vérité ou de la relativité des vérités qui sont différentes. Mais nous considérons tous que la démarche scientifique s'applique aussi bien en sciences dures qu'en sciences humaines et sociales. Pourtant, pour la plupart des personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures, et pour la plupart de ceux qui n'ont fait que des études supérieures scientifiques, démarche scientifique désigne la démarche des sciences dures. Et ça aussi, c'est un gros problème parce que finalement, il y a un clivage. Je reviens à la question qu'on m'a posée. Est-ce que la démarche scientifique favorise le développement de l'esprit critique? Oui, la démarche scientifique favorise le développement de l'esprit critique si on ne la limite pas à simplement une démarche purement en sciences dures, qui elle-même va développer un certain type d'esprit critique, mais pas une capacité à resituer cet esprit critique dans le monde social et dans le monde des sciences humaines et sociales. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Et vous voyez bien que les expériences dont je parlais tout à l'heure, par exemple, photographier la Lune pour faire une maquette de la Lune, s'intéresser au jeu d'ombre de la Terre pendant une éclipse de Lune, etc., ça amène à développer un esprit critique tout à fait intéressant, mais sur des sujets qui sont finalement limités aux sciences dures et donc qui sont assez éloignés des investigations qu'on peut conduire inversement sur la société en général, sur les moyens d'information, sur les choix politiques, sur les croyances, la crédulité des personnes, sur donc ce qui est de la fausse information, de la vraie, sur le rôle des médias, etc. Et donc, je crois qu'il me reste encore juste quelques minutes. Pour terminer là-dessus, ce que je dirais, c'est que un des éléments très importants quand on travaille sur la réduction de l'esprit critique, c'est justement cette capacité d'ouvrir la réflexion et la méthode d'investigation, non seulement à ce qui est enseigné comme étant scientifique à l'école ou au lycée, mais aussi vraiment sur la façon dont fonctionnent les sciences humaines et l'épistémologie des sciences humaines. Pour aller un peu plus loin, ce que je veux dire, c'est que finalement, si on veut vraiment développer l'esprit critique, et ça a été très bien dit tout à l'heure par Sylvie Pierre, si on veut développer l'esprit critique, effectivement, il faut faire réfléchir sur la façon dont fonctionne le système social, les médias, le rôle des médias dans le système social et le rôle des réseaux sociaux. En réalité, si on veut, par exemple, décoder des informations qu'on reçoit, il faut comprendre que les fake news, les infox, pardon, ne sont pas que des informations qui sont diffusées uniquement pour semer la panique. Les infox, ce sont des informations qui sont développées, beaucoup d'auteurs l'ont démontré, parce qu'il y a une activité commerciale importante dans la gestion des clics, la notoriété des diverses sources sur les réseaux, parce qu'il y a des enjeux très importants à cliver des groupes politiques les uns par rapport aux autres, parce qu'il y a des nécessités de pouvoir créer du flux, du débit sur certains médias plus que d'autres, etc. Donc, effectivement, si on veut vraiment développer l'esprit critique dans le champ des moyens d'information, il ne faut pas se limiter à de petites expériences, à des petites investigations de démarches scientifiques sur des objets comme les cratères lunaires ou des choses comme ça. Il faut aussi les étendre bien plus largement. Et ça, c'est très, très important. C'est vrai que c'est cette question du clivage, de l'image qu'on a des sciences qui seraient uniquement les sciences dures, ça amène à des visions très, très clivées des choses. Pour comprendre les fake news, il faut comprendre par exemple la différence entre les croyances et la crédulité. Nos sociétés, et ça beaucoup d'auteurs ont travaillé là-dessus bien entendu, nos sociétés et nous-mêmes en tant qu'êtres humains sociaux, nous ne pouvons pas vivre sans croyances, nous ne pouvons pas vivre sans émotions. Pour autant, effectivement, le danger vient quand des personnes se servent de notre crédulité. Et pour comprendre ce genre de questions, il faut avoir vraiment des investigations qui ne sont pas limitées à la démarche scientifique des sciences dures, mais plus généralement à des démarches scientifiques de sciences humaines et sociales. Et là aussi, effectivement, des tas de projets sont faisables. On peut tout à fait utiliser des données sociodémographiques, par exemple, qui sont disponibles maintenant sur les bases de données data.gouv.fr, par exemple, pour construire des projets. On va faire de l'investigation sur les populations, quels sont, par exemple, les niveaux de vie des populations qui vivent dans tel quartier, dans tel autre, etc. Des projets sont tout à fait possibles. Des projets sont aussi tout à fait possibles, par exemple, sur les savoirs qu'on retire de sa maladie, des problèmes de santé, etc. Et donc là, il y a toute une piste d'investigation intéressante. Voilà, j'en arrête là parce que j'ai atteint mon temps limite, je crois.
Merci beaucoup. Alors, nous avons reçu un certain nombre de questions, soit en commentaire sous le live, soit par mail. Vous pouvez d'ailleurs continuer à poser vos questions. La première reçue est pour Olivier Lasvernias. Comment réagir face à la déferlante du documentaire Hold Up ?
Ben, pour moi, j'ai pas travaillé dessus. Hein. Moi, je pense que la question, c'est de demander aux gens ce qu'ils en pensent et pourquoi ils auraient envie d'y croire ou ne pas y croire. C'est aussi dans la suite de ce que, je crois, disait Sylvie Pierre tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire travailler les gens sur la façon dont ils reçoivent les messages. Moi, j'ai déjà fait ça, de faire travailler des personnes sur pourquoi vous croyez un documentaire sur le fait que l'homme n'a pas été sur la Lune. C'est quoi qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous paraît un élément de preuve, etc. Et en déconstruisant ces éléments-là, en donnant la place pour écouter les croyances des personnes et mettre en évidence à quel moment ils dépassent leurs propres convictions personnelles et on rentre dans une crédulité. Ça c'est intéressant. Je crois que toute cette question du décodage, en fait, la question de la confrontation et de la possibilité de donner une réflexivité, une métacognition par rapport à ce qu'on pense, ce à quoi on croit, c'est très intéressant. Dans les soirées Nuit des Étoiles, tous les ans, même dans toutes les soirées Club d'Astronomie, à partir de minuit, on parle de Dieu, de la mort, du Big Bang, de la fin, etc. Et c'est très intéressant d'en parler, ne serait-ce que pour dire que ça ne concerne pas l'astronomie.
Sylvie-Pierre, est-ce que vous voulez apporter un complément de réponse, peut-être ?
Oui, peut-être pour compléter, il y a un article sur le site The Conversation écrit par un universitaire qui décrypte justement le film Hold Up et qui montre bien tous les rôles donnés aux témoins dans ce film, enfin les médecins, les sachants, mais aussi les personnes... non sachant dans le domaine. Et je trouve que, pour les formateurs, ça peut être une source intéressante de conversation parce que vous avez quand même des chercheurs qui travaillent sur ces questions. Et cet article que j'ai lu dernièrement est vraiment très pédagogique parce qu'il décrypte bien, justement, hein, il répond à cette question, il décrypte bien ce film et tous les mécanismes qui sous-tendent la construction du film, le récit, les points de vue. Et donc, ça peut être vraiment un outil intéressant pour justement décrypter ce type de ressources vidéo.
Et oui, si je puis me permettre, en complément de ce que vous dites, parce que je suis complètement évidemment d'accord avec ça, c'est que moi, je ferai ça en deux temps. C'est-à-dire, je commence par écouter les personnes sur comment ils reçoivent le documentaire, pourquoi ils se posent des questions... pourquoi ils ont envie de croire à telle chose, et ensuite on regarde le documentaire. Sinon, en fait, le problème, c'est le statut de l'autorité. Si on leur dit, voilà, en gros, vous voyez ce documentaire-là, on vous explique pourquoi c'est faux, oui, ils n'ont pas la place de déployer et d'arriver à des conflits, ou même à constater par eux-mêmes que finalement, ils aimeraient bien que telle chose soit vraie, ou... Ils ne comprennent pas pourquoi on leur dit ça, si c'est faux. Enfin, voyez, dès qu'on commence à dérouler ça, alors là, on peut vraiment discuter.
Oui, bien sûr, toujours partir du recueil des représentations de ce que les personnes ont ressenti en regardant ce film. Mais après, je citais cet article dans The Conversation, hein, il s'appelle « Hold up, les 8 personnages clés qui font une bonne théorie du complot ». Donc, vous, en tant qu'intervenant, hein, pour, par exemple, prendre en compte ce film, ça va être un bon outil de décryptage. Mais bien sûr, on applique… Comme vient de le dire l'intervenant, hein, on applique le fait de recueillir par une technique le ressenti des personnes et les faire parler, effectivement, le retour.
Merci. Alors, je continue avec la deuxième question que l'on a reçue, plutôt pour Sylvie, à nouveau. Elle fait référence aux élections américaines. Malgré les preuves qu'il n'y a pas fraude, écrit Camille, Trump continue de penser le contraire. Face aux fake news, doit-on chercher à convaincre? Ceux qui pensent qu'il y a fraude sont-ils des incrédules?
D'accord. Alors, effectivement, là, avec les élections aux États-Unis, on a un bon exemple de fake news, en tout cas. Alors, je prendrais peut-être un exemple. Parce que les infox, on va dire, hein, si on utilise le terme, il y a vraiment une multiplicité d'infox. Par exemple, des infox qui peuvent être produites par des lobbies. Alors, Trump, ça va être un homme politique, mais plus proche de nous, par exemple, j'ai travaillé sur des sites, de faux sites créés par le lobby de la viande, par exemple. Vous pouvez regarder le site Clara l'institutrice, où on a finalement des détournements, et c'est très facile de créer un faux site. Donc, vous avez des lobbies qui créent des faux sites et qui trompent, parce que c'est toujours... et qui trompe le public avec une logique, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est très important d'identifier les logiques qui sous-tendent toutes ces informations, etc. Alors, pour Donald Trump, il y a une logique de pouvoir, il y a une logique... Hein, alors, j'ai des collègues qui travaillent beaucoup sur ces questions et les discours, l'analyse du discours, la rhétorique, elle est nécessaire à analyser. Hein. Mais moi... Plus proche, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur des sites comme Clara l'institutrice à la fête de la science, par exemple, où nous intervenons auprès d'un grand public, hein, pour montrer qu'en fait, on peut retrouver des sites qui sont très bien faits, qui sont de faux sites, mais qui ressemblent à un vrai site. Hein, parce que Clara l'institutrice, c'est une jeune institutrice, elle est sympathique, il y a la caution scientifique d'un nutritionniste, et puis tout est faux, quoi. Tout vise à induire le lecteur en erreur et à l'inciter à faire de la propagande, entre guillemets, pour la viande, par exemple. Hein. Donc, effectivement, l'incrédulité, je crois qu'il y a vraiment un travail très important de formation, d'accompagnement des personnes pour être clairvoyant par rapport à toutes ces stratégies, toutes ces logiques. Hein. Et puis, pour Donald Trump, il y a quelque chose qui est important, c'est justement la démocratie. S'il y a des élections, c'est quand même un système démocratique. Hein, si on remet en question un système démocratique, c'est un peu comme les infox où nous allons décrédibiliser les sachants, décrédibiliser la démocratie, et ça peut être quand même très dangereux si tout est mis sur le même plan. Donc moi, je crois à la raison, je pense qu'il va laisser sa place, hein, et donc c'est par aussi la formation à un regard éclairé, hein, à pouvoir discerner les éléments qu'on peut arriver à avoir des citoyens capables de discerner les stratégies.
Oui, si je peux ajouter un point, là aussi pour donner une référence de ressources vraiment intéressantes, nos collègues de la BNF et de l'INA ont organisé en mars 2019 une journée, un colloque sur l'infox qui est entièrement en ligne. Et donc il y a une vidéo qui représente 10 heures, mais la partie du matin en particulier est extrêmement intéressante. Donc c'est hashtag colloque infox. Et en particulier plusieurs présentations, dont celle de Dominique Cardon sur justement l'analyse. Alors, c'était avant la, l'élection américaine de cette année, mais néanmoins, c'est l'analyse de la campagne de Trump. Et effectivement, il y a également une journaliste de BuzzFeed News là, qui fait une intervention aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'industrie qu'il y a derrière les clics et donc l'industrie de la production et de la circulation de ce qu'on appelle un Fox, mais qui en fait définissent des réalités vraiment très très différentes. Et donc ça, c'est des outils vraiment très intéressants, ce type de document, comme le documentaire sur Hold Up, pour qu'on puisse regarder les infox autrement. On a très souvent tendance, quand on est enseignant ou bibliothécaire, ou même soi-même en famille, on a très souvent tendance à être à l'échelle micro, à l'échelle de l'individu, quoi, et de se dire, mais comment ça se fait qu'on croit à un truc pareil ? Et effectivement, on n'a pas en tête l'énorme machine que représente la production des infox, ce qu'on appelle les fermaclics, donc les pays qui payent des personnes pour cliquer, pour augmenter des scores, etc. Et tous ces enjeux, il y a une activité essentielle. Et quand on prend, on n'est pas ici des commentateurs politiques ni des enseignants chercheurs en sciences politiques, mais on voit bien que les enjeux de Trump sont des enjeux bien au-delà de la validation de cette élection-là. Ils sont dans ce qui va se passer pour les sénatoriales, ils sont dans ce qui va se passer en 2024, ils sont dans des enjeux qu'il a par rapport à des dettes qu'il a prises, on le voit aujourd'hui avec les amnisties qu'il déclare, etc. Donc, effectivement, il faut vraiment décoder tous ces niveaux-là et ne pas se dire, finalement, c'est la question pourquoi ce type-là croit que la Terre est plate. C'est pas du tout la question, c'est quels sont les enjeux derrière, quels sont les enjeux économiques notamment, à faire du buzz sur le fait que quelqu'un a fait un documentaire sur la Terre plate ou sur tel ou tel aspect d'un complot, quoi. En fait, le concept de théorie du complot, il me semble qu'il est un peu dépassé. On a une économie de la fausse information dans ce qu'on appelle les médias biface, là, où il faut gagner un public de publicité et puis gagner un public de lecteurs. Enfin bref, il y a des mécanismes incroyables qu'il faut vraiment décoder.
Merci. Alors, une nouvelle question, probablement avec une réponse un peu plus courte, qui vous concerne tous les deux, je crois. Pour parler de ce qui se passe en bibliothèque, les bibliothèques reçoivent de très nombreuses demandes pour faire des actions au VMI. Le choix qui est fait parfois, c'est de n'accueillir chaque personne ou chaque groupe qu'une seule fois. Est-ce que vous pensez que c'est un type de méthode qui peut fonctionner ou est-ce qu'une action VMI nécessite toujours une action sur la durée ?
Je peux répondre. Je dirais qu'il faut surtout de votre part une grande adaptabilité et peut-être adapter les modes d'intervention au public. C'est effectivement une réalité. Vous n'avez pas la présence de groupe peut-être comme on peut l'avoir en formation. Néanmoins, à la Fête de la Science, par exemple, où nous intervenons une fois auprès de public, ou quand j'interviens dans des médiathèques, en une conférence, je constate qu'il y a une réelle prise de conscience en travaillant de cette façon-là. Donc, je dirais que l'on peut, en une intervention, amener un public à s'interroger. Déjà, si le public s'interroge, je prends un exemple. J'ai travaillé avec des femmes sur le site ivg.net, qui est un site qui ressemble à un site officiel du ministère de la Santé, mais qui est un site qui a été créé par des catholiques et qui vise à plutôt influencer, par exemple, les jeunes filles à ne pas pratiquer l'IVG. Donc, il y a une propagande anti-IVG sous couvert d'un site qui ressemble tout à fait à un site officiel. Et quand vous tapez IVG, vous avez ce site qui apparaît en premier. Ça a aussi les algorithmes. Expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ça arrive en premier. Eh bien, en une intervention auprès d'un public de jeunes femmes, le fait de travailler sur les sites et décrypter l'économie d'un site, l'idéologie qui sous-tend un site, parce qu'effectivement, il y a il y a des groupes de pression qui utilisent les médias pour diffuser des idéologies ou en tout cas des idées, des valeurs, qui s'attaquent aux valeurs, à nos valeurs de notre République, hein, donc qui sont quand même dangereuses pour un vivre ensemble, hein, par exemple, qui vont diffuser des messages de racistes, qui sont vraiment de haine et qui peuvent fractionner notre société. Hein. Donc là, il y a vraiment un enjeu de société, de vivre dans une société fraternelle où on vit ensemble. Et voilà. Donc, en une fois, il me semble qu'en une intervention, on peut faire prendre conscience à des publics que, attention, il y a des sites, il faut toujours avoir des réflexes, s'interroger, vérifier, etc.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sylvie. Et moi, j'aurais ajouté qu'effectivement, l'essentiel, c'est de mettre les personnes en mouvement. C'est-à-dire d'attirer leur attention sur des questions qu'elles ne se posaient pas forcément et de les mettre dans un processus qu'elles vont pouvoir réutiliser. Effectivement, quand finalement se demander pourquoi on a envie de croire à un truc sur Facebook, c'est pas mal de se demander ça avant de cliquer. Beaucoup de psychologues ont très bien démontré, on clique à l'émotion, hein, on clique même si on est furieux, même si ceci, on va cliquer, on va partager, on fait partie du mainstream, enfin de l'espèce de courant. Bon, voilà. Mais si on a tout d'un coup, on s'est rendu compte que finalement, on était peut-être en train de se faire, avoir entre guillemets par une information, par quelque chose. Ben c'est pas mal d'avoir le réflexe de se demander pourquoi on a envie de cliquer. Mais pourquoi j'ai envie de partager ça et quel est le sens de ce truc, quoi. Bon. Et ça, en une séance, sur une étude de cas, quelque chose, on peut avoir ce déclic-là.
Eh bien, merci à tous les deux. Il est 15h13 et donc effectivement l'heure de conclure cette rencontre. Merci d'avoir respecté à ce point le timing. Je donne rendez-vous à 15h30 à ceux d'entre vous qui sont inscrits à l'atelier. Vous avez tous reçu normalement un mail qui vous permettra de vous connecter à votre session Klaxoon. Et avant d'arrêter, ben, je voudrais bien sûr remercier une nouvelle fois nos intervenants, vous aussi, public, pour vos questions, et tous ceux à la BPI qui se sont mobilisés sur ce projet, qui a été un vrai travail d'équipe malgré le confinement, et à la délégation à la coopération, la régie technique et multimédia, le service juridique et le service développement des publics et communication, et tout particulièrement Valérie Robin, Jean-Baptiste Wessman, Renaud Guis et Julien Masson. Bonne fin d'après-midi à tous et à tout de suite pour ceux qui suivent l'atelier.
Au revoir. Merci. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir.